Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir du coup les conseils qu'il faut absolument appliquer afin de bien traverser un bad run. Et vous allez le voir, vraiment la clé c'est d'être préparé au bad run avant même qu'il arrive pour être capable de bien rebondir. Je vous embête pas plus longtemps, on rentre directement dans la vidéo. Petite introduction avant de commencer, sachez d'ailleurs que vous pouvez tout simplement écouter la vidéo, j'ai pas voulu faire une vidéo face caméra avec plein d'effets de montage, de la musique et tout, on s'en tape, je me suis dit là il faut bosser sérieusement, donc vous pouvez écouter la vidéo pendant que vous conduisez, que vous faites la cuisine, que vous faites vos sports, sinon posez-vous bien focus, prenez des notes, c'est parti. Donc, le bad run c'est de très loin l'aspect le plus difficile et douloureux qu'aura à vivre un joueur de poker. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est impuissant face au bad run, et c'est à la fois vrai, on contrôle pas les cartes qui tombent, mais c'est complètement faux, dans le sens où on a beaucoup de choses à faire pour mieux gérer un bad run. Sinon, cette vidéo n'aurait pas de sens. Malheureusement, pendant un bad run, tout s'effondre. Vos résultats s'effondrent, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent, et puis votre ROI et votre win rate, ben, ils baissent. Votre bankroll aussi, elle baisse, puisque à force de perdre de l'argent, votre bankroll qui était peut-être de 800 euros, 3000 euros, peu importe, elle va être divisée par 2, peut-être divisée par 3. Je ne vous souhaite pas que ça retombe à zéro, mais à un moment, la question va peut-être se poser et c'est très difficile. Votre plaisir de jouer, bien évidemment, il se casse la gueule aussi, parce que prendre des bad beats toute la journée, c'est pas facile. Votre motivation, forcément, en prend un coup, puisque bah, vous vous levez le matin ou vous arrivez le soir après votre boulot pour lancer une session de poker et vous avez peur que vous perdiez encore et donc vous avez moins la motive de jouer. L'envie de jouer se transforme en peur de jouer parfois. Et votre confiance aussi en prend un coup parce que vous vous dites bah, peut-être que j'arriverai plus jamais à gagner. Malheureusement également, vos rêves et vos espoirs pour votre avenir au poker, eux aussi en général, en prennent un coup parce que vous vous dites « Merde, moi dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, j'espérais avoir tel bankroll, j'espérais monter à telle limite, j'espérais au moins bah, pouvoir jouer des tournois à 50 euros, peu importe. » Et là, vous vous dites « Avec le bad run que je traverse, je n'y arriverai jamais. » Donc évidemment, c'est très difficile et ça, je l'ai vécu moi-même en tant que joueur professionnel à l'époque. Et évidemment, je vois plein de joueurs encore et encore traverser ça, c'est normal. Néanmoins, les bad runs, il faut vraiment que vous compreniez que c'est inévitable. Et une des clés de votre réussite, du coup, en tant que joueur de poker, ça va vraiment être d'apprendre à bien vous y préparer à ces bad runs pour mieux les traverser et rebondir ensuite. C'est vraiment ça qui est important. N'attendez pas d'être en plein dans un bad run pour réagir. Ça ne sera pas le bon moment. Il faut se préparer à l'avance. On détaillera ça plus tard. Donc si vous arrivez, vous, à rester concentré, serein, motivé, confiant et travailleur pendant ces périodes de bad run, vous allez complètement crush vos adversaires sur le long terme qui, eux, feront n'importe quoi. Parce que c'est tellement difficile de bien traverser un bad run que vos adversaires, en général, vont perdre énormément, tout comme vous si vous n'êtes pas prêt. Or, si vous, justement, vous avez fait le travail, que vous êtes bien préparé, vous arriverez à perdre beaucoup moins que vos adversaires. Et donc, sur le long terme, ça fera une différence énorme. Vous serez à de plus hautes limites plus rapidement. Vous aurez moins dilapidé votre bankroll dans les moments difficiles. Vous aurez réussi à maintenir un niveau de jeu correct, mais aussi surtout un travail sur votre jeu qui vous aura permis de rester motivé et surtout de garder le cap sur votre progression au poker. Donc, c'est ultra important. Donc savoir traverser un bad run, c'est une compétence à part entière, mais finalement, presque personne ne la bosse. Souvent parce que les gens ne savent pas comment s'y prendre, mais aussi parce que la plupart des gens pensent que bah voilà, il n'y a rien à faire, ça va, les bad runs, ça fait partie de la vie, faut être force, mettre un coup de pied au cul et repartir. Or c'est totalement faux, savoir traverser un bad run, c'est une compétence à part entière. Mais au juste, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un bad run ? Alors, on va partir d'une définition simple, hein. Un bad run, c'est juste une période de plusieurs semaines ou de plusieurs mois où la variance, c'est-à-dire la chance, entre guillemets, là du coup la malchance vous frappe de façon particulièrement intense et répétée, débouchant du coup sur des pertes financières inévitables. On va considérer que même un excellent joueur, bah, lorsqu'il traverse un très très gros bad run, bah, il n'a pas d'autre choix que de perdre, quoi. Ok ? Donc, évidemment, bah, pendant un bad run, vous avez beaucoup de coups à tapis pré-flop qui sont perdus. Beaucoup trop souvent, vous perdez vos 50-50, 70-30, etc. Vous avez aussi beaucoup de bad beats. Vous en prenez plus que la moyenne. Et surtout, particulièrement, par exemple, dans les coups clés d'un tournoi ou dans des très gros pots en cash game. vous prenez non seulement plus de bad beats, mais ils arrivent dans des moments très importants. Du coup, évidemment, ça fait plus mal. Vous avez aussi beaucoup de setup, hein, c'est-à-dire de rencontres inévitables. Par exemple, vous avez paire de rois, à chaque fois, il y a paire d'as en face. Quand vous avez un brelan, le joueur a un brelan au-dessus. Quand vous avez une quinte, le joueur a une couleur, etc. Vous m'avez compris, à chaque fois que vous avez un très bon jeu, ben, le joueur a un jeu supérieur au-dessus et c'était inévitable. Autre aspect du bad run, il pourrait y avoir d'autres signes, hein, on va pas s'éterniser là-dessus, mais par exemple, quand on bluffe et qu'on fait un bon bluff, ben, les adversaires, on a l'impression qu'ils payent tout le temps. Et qu'à chaque fois, ils ont un bon jeu. Et par contre, quand nous, on a une bonne main, quand on value nos adversaires, c'est-à-dire qu'on mise en espérant qu'ils nous payent avec une main moins bien, bah, il n'y a jamais rien en face. À chaque fois qu'on a paire d'as, tout le monde couche. Quand on a un brelan, tout le monde couche, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Donc, attention, c'est ultra important. Vous n'êtes pas du tout en bad run si vous perdez juste 10 ou 20 buy-in, par exemple, en cash game sur une ou deux semaines, voire même plus en tournoi et en cash game aussi. Hein. C'est pas parce que juste... vous perdez quelques caves, quelques buy-in, que vous êtes en bad run. C'est totalement normal en tournoi, par exemple, de pas gagner sur un ou deux mois, voire même plus si vous jouez des limites où il y a énormément de joueurs et que vous n'avez pas non plus un avantage énorme sur la limite. C'est normal hein, de traverser un ou deux mois sans gagner. C'est pas du tout inhabituel. Donc ne dites pas dès que vous perdez un peu, ah je suis en bad run. C'est pas parce que vous perdez trois soirs d'affilée que c'est le bad run. Très très loin de là, d'accord ? Donc il faut aussi savoir distinguer un peu les choses parce que sinon on va avoir l'impression qu'on badrun tout le temps. C'est totalement logique au poker d'avoir plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée où on perd. Encore une fois, en tournoi, un ou deux mois, c'est même tout à fait standard. Donc vous n'êtes pas non plus en badrun si vous jouez plus mal que d'habitude sans vous en rendre compte. Ne confondez pas « je badrun et je joue mal ». Ok, parce que souvent on a trop tendance à dire « ouais, non mais là c'est la faute du badrun, voilà, moi je joue très bien ». Ça peut être une bonne façon de se protéger, de ne pas voir les choses en face, parce que ce n'est pas agréable de se dire que c'est de notre faute si on perd, mais ne dites pas systématiquement « je suis en bad run ». Essayez de voir avant si vous ne jouez pas plus mal que d'habitude. Il y a un autre problème aussi, c'est que parfois, même en jouant votre meilleur poker, vous n'avez pas le niveau de battre la limite. Vous pensez que vous êtes un des meilleurs joueurs sur votre table, mais ce n'est pas le cas. Notamment, ça arrive souvent à des joueurs qui ont good run, c'est-à-dire à l'inverse du bad run, ils ont eu beaucoup de chance au début de leur carrière, on va dire, ou dans leur premier mois. Du coup, ils pensent qu'ils sont très forts, alors que c'est pas le cas, ils ont juste eu de la chance. Et quand ça retombe, qu'ils ont, on va dire, un niveau de variance normal, ils disent « Ah, bah là, je bad run, machin. » Alors que non, pas du tout. Ils jouent le même poker que d'habitude, c'est juste que là, ils ont beaucoup moins de chance qu'avant. Ils ont une chance normale, on va dire. Et là, ça suffit plus pour gagner. Ils se font battre par les adversaires réguliers de la limite et ils disent « Ah, bah c'est la faute de pas de chance. » Mais évidemment, ça peut ne pas du tout être le cas. Parfois, vous avez beau jouer de votre mieux, vous n'êtes pas au niveau pour la limite que vous jouez. Donc, ne mettez surtout pas automatiquement vos mauvais résultats sur le dos du bad run. Ça serait vraiment trop facile. Très grosse erreur à pas faire. De plus, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez un bad run, vous jouez forcément plus mal que d'habitude, voire beaucoup, beaucoup plus mal. Ok ? Donc, certes, je le sais, c'est vrai. Parfois, il y a des très gros bad run. Je ne le nie pas, au contraire. Mais la tendance très 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 fréquente, c'est d'aggraver le bad run qu'on a alors qu'en général on joue très mal aussi, voire même il n'y a pas tant de bad run que ça, on joue très 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 mal et on n'a pas le niveau pour battre la limite. Donc faites attention à ça. Il y a également trois points qu'il faut absolument bien garder en tête. Le premier point, c'est que plus votre niveau de jeu est faible, plus la variance et donc la probabilité de bad run est importante et inversement. C'est logique. Plus vous avez un léger avantage sur vos adversaires, plus la chance va jouer un grand rôle. Par contre, si vraiment vous crushez vos adversaires, bah vous allez beau avoir pas de chance sur les coin flips perdus, ne pas avoir assez de bonnes mains ou quoi, vous allez tellement leur rouler dessus en faisant des bons bluffs, des bons calls, en exploitant leurs faiblesses, que vous aurez moins de variance, d'accord ? Donc gardez bien en tête que si vous avez un très 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 gros ROI, c'est-à-dire retour sur investissement en tournoi, ou un très gros win rate en cash game, vous aurez peu de variance. Et parfois, vous pensez être, comme je l'ai dit tout à l'heure, en très gros bad run, alors que c'est juste que vous n'avez pas un très gros niveau de jeu. Donc j'ai mis CF PrimeDop. PrimeDop, c'est un logiciel, on ne va pas en parler là maintenant parce que ce serait trop long, mais vous pouvez faire des simulations de variance en tournoi et en cash game en faisant jouer différents paramètres. On va voir les autres paramètres là. Donc, il y a votre niveau de jeu, le nombre de tournois et de volume que vous jouez et le nombre de joueurs qu'il y a dans vos tournois aussi. Donc, deuxième point du coup, plus vous jouez des tournois où il y a énormément de joueurs, plus la variance sera importante. Pourquoi ? Ben parce que en tournoi de poker, ce sont les premières places qui payent. On va dire entre la cinquième et la première place, ça dépend, ça peut être un peu plus, un peu moins, peu importe. Mais évidemment, si vous jouez des tournois où il y a 1000 joueurs, 800 joueurs, 2000 joueurs, ben la probabilité d'arriver tout en haut, elle est quand même faible. Il va falloir avoir beaucoup de chance pour arriver en haut. Par contre, si vous jouez des tournois où il y a un plus petit field, c'est-à-dire moins de joueurs, et que habituellement vous jouez des tournois entre 200 joueurs, 300 joueurs, vous aurez une bien plus grande probabilité de finir dans les 5 premières places payées, on va dire, surtout les 2 premières places. C'est logique. Mais très souvent, les joueurs l'oublient. Ils jouent des tournois parce que ça les fait kiffer, où il y a énormément à la première place d'argent à gagner. Mais souvent, ces tournois-là, bah, il y a énormément de joueurs aussi. Donc faites très attention à ça. Le bad run a beaucoup plus de chances de se produire s'il y a énormément de joueurs. Troisième point. Moins vous faites de volume, plus le bad run peut durer longtemps, bien évidemment. Si je vous dis par exemple que c'est pas étonnant sur 1000 tournois, même si on est un joueur correct, de finir perdant ou à peu près break-even. Bah, si ces 1000 tournois, vous les jouez en 3 mois parce que vous jouez à peu près 333 tournois par mois, ça ira, même si c'est long 3 mois. Mais si vous jouez que 100 tournois par mois, les 1000 tournois, ils vont vous prendre 10 mois. Donc évidemment, le bad run va vous paraître infini. Est beaucoup trop long. Donc du coup, une des clés pour essayer de se prémunir de la variance et du bad run du coup, c'est d'essayer d'avoir le meilleur niveau possible. Et parfois, on ne peut pas augmenter notre niveau à nous très rapidement, mais on peut très rapidement jouer à des limites plus basses où on sait que les adversaires sont beaucoup plus faibles que nous. Donc parfois, il ne faut pas non plus s'acharner à une limite et bien être sûr de battre les limites d'en dessous. Donc il faut avoir un très bon niveau de jeu, jouer des tournois où il n'y a pas trop de joueurs, et faire beaucoup de volume pour lisser la variance, entre guillemets, atteindre le long terme plus vite. Ok, donc gardez bien ça en tête. On va rentrer très concrètement dans comment bien se préparer à un bad run désormais, donc c'est le premier point. Je vais vous apprendre comment se préparer à un bad run, et le deuxième point, ce sera comment traverser un bad run lorsqu'on est la tête dans le guidon, en plein dans le bad run. Avant ça, une citation ultra importante que je répète régulièrement mais que vous devez toujours avoir en tête, c'est qu'un homme averti en vaut 2 mais un homme préparé en vaut 4. Donc c'est très important de savoir ce qui nous attend, mais ça suffit pas. Il faut être conscient de ce qui nous attend et être prêt à affronter ce qui nous attend. Sinon, ça sert à rien et le moment venu, vous serez complètement pris au dépourvu. Donc premier point, comment on va se préparer en amont à un bad run ? Bah, évidemment, tout le monde pense qu'il faut bien gérer un bad run lorsqu'il est présent. Lorsqu'on traverse le bad run, c'est là qu'il faut vraiment faire les efforts. Alors que pas du tout, la plus grande clé, c'est d'être préparé à l'avance au bad run et savoir quoi faire le moment venu. C'est vraiment capital, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est qu'il faut travailler avant que le bad run arrive. Comme ça, vous serez prêt le moment où il arrive, d'accord ? Ne pas être préparé à un bad run, c'est un petit peu comme si vous partiez faire le tour du monde en bateau, mais que vous n'étiez pas préparé psychologiquement à l'éventualité de vent et d'orage violent. Ok ? Imaginez, vous partez faire le tour du monde en bateau, à un moment, il y a de l'orage, et vous vous en prenez plein la gueule, vous dites « Putain, c'est pas possible, il y a un orage, c'est pas normal, qu'est-ce que je peux faire ?» C'est insensé. Si vous faites le tour du monde en bateau, vous savez qu'il y a un risque énorme, qu'il y ait des intempéries et des orages, donc vous devez être prêt psychologiquement à ça. Vous ne devez pas vous dire « Oh là là, j'espère qu'il n'y aura pas d'orage. » Non, c'est stupide. C'est comme un sportif, il sait qu'il y aura des moments difficiles dans sa carrière. Il doit être préparé à savoir quoi faire pour affronter les moments difficiles. Au poker, donc, c'est pareil. Il y aura des bad runs, c'est inévitable. Arrêtez d'espérer qu'il n'y aura pas de bad run. Être un joueur de poker, c'est être capable de rester fort, intelligent, concentré, déterminé, confiant, travailleur, même quand il y a un bad run. Donc, préparez, soyez prêt sur le plan psychologique. Arrêtez de vous dire « Oh là là, j'espère à tout prix que ça va bien se passer, j'espère gagner le tournoi, j'espère faire TF. » Non, espérez simplement que si le bad run arrive, vous serez prêt, vous serez fort. Ok ? Parce qu'il n'y a pas besoin d'être préparé quand tout se passe bien au poker. C'est facile hein, d'être heureux quand tout se passe bien. Donc deuxième point, si vous n'êtes pas préparé à un bad run, encore une fois, c'est comme faire le tour du monde en bateau sans maîtriser les compétences permettant de savoir comment naviguer malgré ces intempéries. Reprenons la métaphore du marin qui part faire son tour du monde en bateau et au cas où l'orage arrive, non seulement il n'était pas préparé psychologiquement comme on l'a vu dans le premier point, mais imaginons que ce marin, il n'a même pas les compétences permettant de savoir comment naviguer malgré ces intempéries. C'est-à-dire que quand il y a l'orage, bah, il ne sait pas quoi faire. Il reste avec l'ancre, le bateau tangue, il y a plein d'eau sur le bateau, il ne sait pas à quoi faire. Il se met à tilter, à dire putain, il y a l'orage, c'est insupportable, il stresse, il panique et il est pris au dépourvu. C'est débile. Vous savez, quand on était petit, on vous faisait tout le temps les tests de préparation aux incendies. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ou pour les tremblements de terre. Pourquoi on fait ça? C'est pour que si jamais il y ait un incendie, comme tout le monde panique de base, il faut avoir quand même 2-3 réflexes pour savoir quoi faire pendant qu'il y a l'incendie. C'est déjà le bordel, mais c'est moins le bordel quand on est préparé psychologiquement et qu'on sait quoi faire. Qu'on sait où est la sortie d'évacuation, qu'on sait que telle alarme veut dire qu'il faut aller à tel endroit, qu'il y a l'extincteur, etc. Donc il faut être prêt psychologiquement et avoir les compétences pour se battre pendant l'orage ou pendant le bad run, vous avez compris. Et troisième point pour filer la métaphore du marin qui fait le tour du monde en bateau, imaginez un marin qui n'a pas prévu le matériel et les ressources nécessaires lorsqu'il y a l'orage. C'est-à-dire que le marin, il n'a pas de gilet de sauvetage, il n'a pas de fusée de détresse, il n'a pas de voile de rechange ou ce genre de choses. Il n'a pas de radio pour appeler un bateau de sauvetage, etc. Ce serait évidemment complètement stupide. Imaginez un marin qui part faire le tour du monde en bateau, il y a un orage, il n'est pas prêt psychologiquement, il panique, il tilte. Il n'a pas les compétences pour savoir comment naviguer pendant l'orage et il n'a aucun matériel pour l'aider. Ce serait stupide. Pourtant, la plupart d'entre vous, en tant que joueur de poker, vous en êtes là. Vous n'êtes pas vraiment prêt psychologiquement, vous ne savez pas quoi faire quand le bad run frappe et vous n'avez tout simplement pas de ressources. Vous êtes pris au dépourvu. D'accord ? Donc, la clé, c'est de bosser tout ça. Donc, encore une fois, lorsque l'orage arrive, vous allez paniquer, vous faites plein d'erreurs et vous coulez en même temps que le bateau. En tant que joueur de poker, quand le bad run arrive, vous paniquez, vous stressez, vous tiltez, vous êtes démotivé, vous faites plein de conneries, à la fois sur les tables, à la fois en dehors des tables, bien évidemment. Et là, au lieu de couler en même temps que le bateau, bah, qu'est-ce qui coule? C'est vous-même et votre bankroll. Et c'est dramatique. J'ai vu littéralement, et je continue de voir, des carrières de joueurs de poker qui éclatent en vol à cause de ça. Même après 2-3 ans. Hein. Ne croyez pas, hein, à tout moment, un bad run très violent peut vous mettre très mal, donc il faut être prêt. C'est en étant capable de bien jouer au poker, encore une fois, lorsque vous en prenez plein la gueule, que vous crusherez les limites et ferez la différence face à vos adversaires, tout en continuant de progresser, d'accord ? Bien évidemment, c'est important d'être bon au poker, mais c'est pas forcément les joueurs les plus doués techniquement qui percent. C'est ceux qui sont capables, quand tout va mal, de rester à un niveau de jeu correct et de continuer de progresser. C'est ultra important. Alors, on va voir maintenant trois choses ultra importantes qui vont vous permettre justement de vous préparer en amont à un bad run. La première chose, c'est d'être capable de changer votre vision des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez transformer votre attitude face au bad run et passer d'un état où vous vous dites « Oh, j'espère que je ne vais pas bad run, j'espère que je vais gagner », comme je vous disais tout à l'heure, à « Eh bien, que le bad run vienne, je suis prêt à l'affronter ce bad run et c'est là que je ferai la différence. » D'accord? Vous devez arrêter de craindre le pire. Vous devez savoir que le pire va arriver et que c'est là que vous allez pouvoir tester votre force, votre capacité. D'accord? L'obstacle devient une sorte de maître qui va vous aider à vous devenir meilleur. S'il n'y a pas d'obstacle, vous n'avez jamais d'occasion de vous entraîner. Donc en réalité, le bad run, les bad beats, ça ne sert à rien d'attendre le bad run, même les bad beats, dès que vous sentez que là, vous n'avez vraiment pas de chance, c'est l'occasion de vous entraîner à changer votre attitude, vos pensées, vos émotions. Donc vous devez absolument apprendre à accueillir de façon sereine ce qui advient et qui est hors de votre contrôle. Pour vous concentrer bien évidemment sur ce qui dépend de vous, c'est-à-dire votre concentration, votre A-game, votre régulation émotionnelle, etc., votre travail sur votre jeu, vous m'avez compris. Vous ne contrôlez pas les cartes qui tombent, c'est impossible. Vous pouvez contrôler par contre votre réaction face aux cartes qui tombent, d'accord ? Donc quand vous partez à tapis préflop, par exemple, vous pouvez vous préparer au fait que vous allez perdre et déjà anticiper votre réaction émotionnelle et vos pensées, au lieu d'être là à attendre et à espérer que le coin flip y soit en votre faveur. Ok ? C'est vraiment le mindset qu'il faut avoir. Donc très concrètement, entraînez-vous avant de lancer votre session et même pendant que vous êtes en session, en vous répétant des phrases qui vous permettent d'entretenir cette vision. Ça sert à rien de vous dire « Ah bah tiens, j'ai une vision, j'ai écouté la vidéo de Peanut, c'était sympa. » Non. Cette vision, elle doit être entretenue, elle doit être répétée, elle doit devenir naturelle. Votre cerveau, pour que ça devienne naturel, il faut lui répéter les choses encore et encore et encore. Donc, exemple de phrase que vous pourriez vous répéter avant vos sessions, pendant votre session, vous pourriez vous dire « Mon travail de joueur de poker, c'est justement d'encaisser les bad beats et de rester concentré et dans mon A-game. » Vous pourriez vous dire une autre phrase du style « Je ne peux pas contrôler les cartes qui tombent, mais je peux contrôler mes émotions et la qualité de mon jeu. » Vous pouvez aussi vous dire, par exemple, « À chaque fois que je prends un bad beat, c'est l'occasion de bien mieux gérer ces bad beats que mes adversaires. » Vous pouvez bien évidemment, et c'est même pas que vous pouvez, vous devez, je vous encourage à vous créer vous-même des phrases sur mesure qui résonnent avec votre personnalité, avec votre vécu, avec ce que vous traversez. Ces phrases, elles doivent être là pour contrer vos automatismes émotionnels et de pensée. C'est-à-dire très concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous prenez un bad beat par exemple ou que vous commencez à traverser un gros bad run? Vous allez avoir tout un tas d'émotions qui vont engendrer des pensées, qui vont tourner dans votre tête et parasiter votre performance, votre concentration, votre stabilité émotionnelle. Vous devez avoir quelque chose qui va contrer ces émotions et ces pensées. Et ces choses-là, c'est tout simplement des pensées plus rationnelles, plus intelligentes, plus en adéquation avec une juste vision des choses, qui va vous encourager à vous remettre sur le droit chemin, à vous remettre sur les rails. Comme un coach qui vous parlerait derrière et qui vous encouragerait. Ben, il n'y a pas de coach derrière vous en session, vous devez être capable d'être votre propre coach quelque part. Donc attention, hein, changer sa vision des choses, c'est souvent un vrai travail à faire en profondeur et dans la durée. Vous n'allez pas changer certains automatismes émotionnels et cognitifs et des pensées qui vous parasitent comme ça du jour au lendemain. Il faut bien souvent aller plus loin que ces petites techniques que je viens de vous donner pour réellement changer. Pas tout le temps, mais très souvent. Donc je vous conseille de lire des ouvrages sur la question de la régulation émotionnelle, il y a plein de vidéos sur Kill Tilt aussi. Je vous conseille aussi d'écrire et de faire ce qu'on appelle des end story mentales. Des end story mentales, j'en parle dans la masterclass, mais aussi dans des vidéos gratuites sur Kill Tilt, vous pouvez chercher ça. C'est globalement tout un procédé qui va vous permettre de déconstruire tout ce qui vous tilt au poker. D'accord ? Je vous conseille également de faire un travail avec un coach mental en profondeur. Vous pouvez aussi éventuellement trouver un très bon hypnothérapeute ou un thérapeute qui va vous aider à ça. La méditation, bien évidemment, moi je médite depuis 12 ans, ça a transformé ma vie et ça continue de m'accompagner. C'est un outil très très puissant pour lâcher prise et accepter ce qui est dans l'instant présent. Ça veut dire quoi? Enfin, en plus de plein d'autres bénéfices, hein, comme la concentration et tout. La méditation va vous permettre d'être plus serein face à l'injustice, face à la douleur, face à vos émotions. Concrètement, vous allez accepter bien plus facilement les bad beats en vous disant « Ok, oui, certes, c'est énervant, mais... cette colère, elle est là, je ne peux pas la supprimer, elle est naturelle, je la laisse passer. » La méditation est vraiment un mouvement d'acceptation de ce qui est et de réussir à être beaucoup plus en paix avec ça. Donc ça va vous empêcher d'accumuler de la colère, de la frustration, donc du tilt, donc finalement plein de choses qui vont vous faire mal jouer et aggraver votre bad run. C'est ça le drame du bad run, c'est qu'en plus de faire très mal avec la malchance, il vous fait très mal à vous. Et vous vous mettez à faire n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle être en tilt. Et mon site s'appelle Kill Tilt. Et mon projet, c'est pas pour rien. Il faut essayer de travailler à dompter son tilt. Même si on peut jamais le supprimer totalement. Donc je vous conseille de faire également ce travail-là que je viens de vous citer. Après un très gros bad run. Pourquoi? Parce qu'un très gros bad run va mettre en lumière les problématiques qui vous sont propres. D'accord? À chaque fois que vous avez un très gros bad run, ça vous teste. C'est un peu comme un crash test et ça montre vos faiblesses, ça met en lumière vos plus gros leaks mentaux. Du coup, ça vous donne l'occasion de travailler ce qui ne va pas chez vous. Ça met en avant vos erreurs et chaque erreur est une opportunité de la comprendre, d'y trouver des solutions pour ne pas reproduire les erreurs à l'avenir. Je parle bien évidemment d'erreurs techniques et mentales. Alors, deuxième point, vous avez compris qu'il faut changer votre vision des choses et votre façon de réagir à ce qui arrive. C'est le premier point pour se préparer à un bad run. Deuxième point qui est ultra évident mais que tout le monde néglige, c'est bien évidemment d'avoir une bankroll cohérente. Vous pouvez faire tout le travail mental du monde. Si vous prenez un bad run de 200 ou 300 buy-in en tournoi et que ça vous broque, ou pas loin d'être broque, c'est-à-dire que votre bankroll retourne à zéro, obligatoirement vous serez mal. Hein. On ne peut pas non plus se transformer en Bouddha qui est totalement serein avec tout ce qui arrive. Il y a des choses dans la vie comme ça, bah, quand ça vous tombe dessus, vous êtes mal. Hein. Si demain vous apprenez que vous avez le cancer, vous avez beau méditer et être en paix avec plein de choses, ça va être une nouvelle difficile à encaisser quoi qu'il en soit. Pareil, si vous traversez un très gros bad run au poker, vous avez beau faire tout le travail mental que vous voulez, vous ressentirez toujours des émotions négatives. Donc une des clés, c'est aussi de travailler concrètement sur la cause du bad run. Et la cause du bad run, elle vous fait souffrir quand votre bankroll est menacée parfois au point de disparaître. Donc évidemment, une des clés, c'est que même si vous prenez un bad run, vous avez quand même, une bankroll avec laquelle vous êtes totalement à l'aise. Donc c'est déconcertant de bon sens, mais pourtant presque aucun joueur amateur, je pense même quasiment aucun, hein. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait 2% de joueurs amateurs qui aient la bankroll en fait adaptée à ce qu'ils veulent. Notamment adapté à traverser un bad run de façon sereine. Mais du coup, comme presque aucun joueur amateur n'a une bankroll adaptée aux limites qu'il joue et à la variance à laquelle il va très probablement devoir faire face, la plupart des joueurs amateurs, lorsqu'ils traversent un gros bad run, pensent que c'est les plus maudits de la Terre, que ça n'arrive qu'à eux, que c'est insupportable, qu'ils vont se broquer, que ce jeu c'est de la merde, blablabla, alors qu'ils étaient juste pas préparés. N'oubliez pas, un homme averti en vaut 2, un homme préparé en vaut 4. C'est une phrase que je répète tout le temps dans la masterclass Progresser au poker. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez creuser ces problématiques mentales et techniques bien évidemment, à vous renseigner. Il y a les liens en description sur notre masterclass Progresser au poker. Il y a des dizaines d'heures de mental, de stratégie et de technique pour faire face au bad run, mais bien évidemment à plein d'autres choses. Mais c'est vraiment crucial, d'accord ? Arrêtez de faire les choses à l'arrache. Ou alors, ne venez pas vous plaindre quand vous avez un bad run de 200 ou 300 buy-in, que c'est insupportable, que c'est pas possible. Non, c'est vraiment, malheureusement, assez classique. D'accord ? Quand vous n'avez pas un très bon niveau de jeu, ce qui est souvent le cas des joueurs amateurs, hein, on ne va pas se mentir, et que vous jouez des gros fields, ce qui est aussi souvent le cas des joueurs amateurs, bah, perdre 200 buy-in, 300 buy-in, ça n'est pas rare du tout. Je parle surtout en tournoi, en cash game, on pourrait dire qu'un bad run de 50, 75 buy-in, c'est pas rare du tout. Donc il faut avoir une bankroll cohérente par rapport à ça. Donc mon conseil est très simple, ayez une bankroll aussi importante que possible. Je vous conseille personnellement 300 à 500 buy-in en tournoi et 200 en cash game, voire beaucoup plus. Si moi demain, je devais coacher quelqu'un qui part de zéro au poker, je lui dirais écoute-moi, on va toujours faire en sorte que ta bankroll soit autour de 500 et 1000 buy-in. Comme ça, si tu prends un bad run de la mort qui tue, qui te met à terre, tu auras quand même encore beaucoup d'argent pour rester à la même limite sans avoir besoin de redescendre. C'est-à-dire que si un joueur, par exemple, il joue des buy-in à 5 euros, ben je vais lui conseiller peut-être d'avoir 2500 euros devant lui. Au moins, s'il se prend un énorme bad run de, disons, 300 buy-in, 3 fois 5, 15, ça va faire 1500 euros. Ben, si le joueur avait 2500 euros, il lui reste quand même 1000 euros. C'est pas ouf. Dans l'idéal, je préférais qu'il ait 5000 euros. Comme ça, il lui reste beaucoup plus d'argent. Mais si on a 2500 euros, qu'on prend un bad run de 1500 euros, qui est quand même très violent et ne va pas arriver souvent, mais peut arriver, on a encore de l'argent pour jouer derrière. Alors, je sais très bien ce que vous allez me dire. Ouais, mais c'est impossible, c'est machin, ces trucs. Bon, pas rentrer dans les détails, mais moi, c'est ce que je vous conseille. Donc, commencez bas, commencez avec une grosse bankroll. Et si vous ne le faites pas, sachez que vous prenez un très gros risque et qu'un bad run peut vous mettre à terre. D'accord ? Souvent, les joueurs ne respectent pas le bankroll management pour aller plus vite. Mais du coup, quand ils ont un très gros bad run, ils sont broke et il faut recommencer tout à zéro. Et ça prend trois fois plus de temps que s'ils avaient respecté un bon bankroll management. Ok ? Et si vous culpabilisez de faire ça avec le poker et tout, bah, commencez juste à des limites très basses. Sur les tournois à 25 centimes, 50 centimes et 1 euro. Et là, bah, 500 buy-in, c'est que 500 euros. Alors, vous allez me dire, ah, de quoi 500 euros, c'est énorme. Bah non, honnêtement, 500 euros, c'est pas du tout énorme pour le poker, c'est ce qu'il faut. Si vous inscrivez à une salle de sport, ça sera 500 euros l'année. Si vous jouez au tennis, bah, les chaussures, la raquette et les cours de tennis, ça sera plus de 500 euros, etc. Faites bien les choses. En tout cas, ne vous plaignez pas si vous ne faites pas bien les choses en termes de bankroll, qui est un gros bad run, que c'est juste pas de chance. Non, c'est juste que vous n'étiez pas préparé. Donc, arrêtez de vouloir aller trop vite encore une fois, parce que même si vous avez la chance d'aller plus vite au début, vous prenez de très mauvaises habitudes, et le bad run vous frappera très violemment plus haut, sur des plus hautes limites. Parce que là, les montants perdus seront énormes. À partir des tournois à 10 euros, 20 euros, bah 300 buy-in en 20 euros, ça fait 6000 euros. Là, ça commence à être des pertes très sèches et très lourdes à encaisser si on n'a pas la bankroll. Et même si on a la bankroll, factuellement, perdre 6000 balles, ça fait mal quand on n'est pas préparé pour la majorité des joueurs. Donc, si en plus, vous n'avez pas la bankroll, là, c'est fini. Donc, on va enchaîner sur le troisième point, qui est d'avoir un cadre propice à une très grande stabilité émotionnelle. Donc là, je répète, hein, c'est pour se préparer en amont à un bad run. Donc en 1, on a vu changer sa vision des choses. En 2, avoir la bankroll. Là, il faut avoir un cadre propice à une stabilité émotionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est pas lorsque vous traversez un bad run qu'il faut tout changer. Il faut déjà avoir mis en place un cadre, un environnement et un ensemble d'habitudes clés pour être prêt à affronter la tempête. Un petit peu comme si vous décidiez du jour au lendemain que vous allez courir un marathon, vos muscles vont être mis à rude épreuve, il faut se préparer à l'avance. Bah là, c'est un peu pareil. Quand vous êtes joueur de poker, vous allez à un moment traverser un bad run, vos émotions vont être mises à très très rude épreuve. Si vous n'avez pas entraîné vos émotions et que vous n'avez pas un cadre et une hygiène de vie qui favorise une très grande stabilité émotionnelle, bah comme dans un marathon, si vous n'êtes pas prêt, vous allez vous blesser et être invalidé. Bah là, vous allez entre guillemets vous blesser émotionnellement, partir dans tous les sens et faire n'importe quoi et être quasi traumatisé, déprimé, démotivé, arrêter le poker, broc, etc. Donc, C'est toujours pareil, je le fais dérouler très vite. Les clés pour bien mettre tout ça en place et avoir un cadre, j'en ai parlé dans plein de vidéos, donc je ne m'attarde pas. J'ai mis un peu par ordre d'importance, mais bon. Le sommeil est capital. Régulation émotionnelle et sommeil, ça va de pair. C'est pareil pour le sport et c'est pareil pour la méditation. D'accord ? Le sport, c'est ultra important pour la régulation émotionnelle. La méditation, pareil. Si vous n'aimez absolument pas la méditation, que vous faites un rejet, bah déjà, je ne sais pas pourquoi, je vous conseille vraiment de vous y mettre. Mais ok, d'accord, ne faites pas de méditation. Faites quelque chose de calme et qui vous recentre. Ça peut être pratiquer de la musique, faire de la cuisine tout seul au calme, bricoler, faire du dessin, marcher dans la nature, je ne sais pas quoi. Mais ça permet vraiment à votre cerveau de se ressourcer et de récupérer. D'accord ? Votre cerveau se fait taper dessus émotionnellement tout le temps au poker. Ça fait mal, le poker. Il y a de la colère, il y a du sentiment d'injustice, il y a de la frustration, il y a de la peur, il y a plein d'émotions négatives. Votre cerveau, il a besoin de se détendre. Donc, le sommeil, ça sert, mais la détente quand on est en état d'éveil, ça aide énormément. Le sport aussi pour évacuer, mais encore une fois, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Juste croyez-moi sur parole, si vous ne me croyez pas, allez chercher les études à ce sujet. Le cercle social positif aussi aide énormément parce que en plus de vous apporter des émotions positives, ça va tout simplement vous changer les idées. Il faut détourner les émotions négatives du poker. Et quand vous voyez des gens, que vous passez un bon moment avec eux, vous ne pensez pas au poker, ça donne aussi à votre cerveau l'occasion de se reposer. Donc les hobbies hors poker aussi, c'est ultra important. Ça va vous permettre d'avoir encore une fois quelque chose hors du poker et de permettre à votre cerveau de se focaliser sur quelque chose d'autre que le poker et qui lui amène du plaisir. Donc évidemment, typiquement, vous pouvez avoir n'importe quelle activité qui vous plaît, vous ressource, ça va énormément vous aider. Si vous avez tout ça en place, ça va vous permettre de bien mieux traverser le bad run. Je finis avec le soutien dans le milieu du poker qui va être également capital, un groupe de travail, des coachs ou un coach, une communauté, ça va vous permettre de vous soutenir dans les moments difficiles. C'est logique, c'est beaucoup plus facile d'avoir un entourage qui peut nous écouter, nous comprendre, nous encourager que d'être tout seul dans son bad run. Donc, n'attendez pas comme moi je l'ai fait à l'époque, ça remonte à longtemps maintenant, mais de souffrir du bad run pour mettre tout ça en place. Commencer dès maintenant afin d'être prêt le moment venu. Moi, il a fallu que je souffre peut-être très violemment de 3 ou 4 bad runs où je faisais rien, j'étais totalement passif, j'en prenais plein la gueule et je le vivais très mal. J'en ai eu tellement marre à un moment que j'ai commencé à bosser tout ça. Je me suis mis à beaucoup mieux dormir, faire du sport, méditer, avoir une hygiène de vie bien meilleure, etc. Enfin, tout ce que je vous conseille. Et c'est en voyant les bénéfices de ça que j'ai créé le site Kill Tilt, hein, littéralement. Donc ça marche, croyez-moi, j'ai testé ça avec plein de joueurs, il n'y a pas de secret. Donc, pour récapituler sur comment afin d'être prêt en cas de bad run, donc je vous l'ai dit, retenez ça dans la vidéo, le plus important c'est de travailler avant le bad run. On l'a vu, le point A, accepter que le bad run est inévitable et qu'on doit être prêt à l'affronter. Point B, avoir une très grosse bankroll pour encaisser la violence potentielle d'un bad run. Point C, qu'on vient de voir, avoir un cadre et une hygiène de vie propice à une très grande stabilité émotionnelle et un équilibre de vie qui fera que, même si c'est le drame au poker, ça ne sera pas le drame dans votre vie. J'espère que c'est clair, on passe à la suite. Donc, deuxième point, point 1, je rappelle, on se prépare à un bad run. Point 2, lorsqu'on est dans le cœur du bad run, qu'on est en plein dedans, qu'on est en plein dans la crise, qu'est-ce qu'on fait ? Le point A qu'on va voir ici, c'est de faire retomber les émotions négatives. Et on vient de parler de régulation émotionnelle, vous allez voir, c'est très proche. N'oubliez pas que la toute première chose à faire, c'est capital, c'est de réguler ses émotions. Parce qu'en fait, un bad run, le cœur de la problématique, c'est ça, c'est les émotions. Puisqu'on va partir, on part du principe, et c'est ça la définition du bad run, c'est que vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire, les cartes qui tombent vous mettent à terre, vous prenez plein de bad beats, c'est vraiment le bordel, mais c'est pas de votre faute, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas contrôler ça. Donc, on pourrait dire, bah, il est où le problème ? Bah, le problème, c'est que vous pétez un câble, c'est pas agréable, vous êtes en tilt, vous avez peur, vous perdez confiance, etc., etc., on l'a dit. Donc le cœur de la problématique, elle est émotionnelle. C'est pour ça qu'il faut être prêt avant émotionnellement. Et vous avez être beau aussi prêt que possible, ça fait quand même très mal lorsque ça arrive, notamment bien évidemment dans les bad runs particulièrement intenses et longs. Et donc il va falloir redoubler d'efforts. Enfin, en tout cas faire mieux les choses. Avant tout, gardez également en tête que vous n'êtes jamais dans un bad run. D'accord ? Comme si vous étiez maudit. Ça, c'est un mindset de victime passive. À chaque fois que vous jouez une main, elle est indépendante de tout cycle. Je sais très bien qu'a posteriori, on peut identifier des périodes objectives où vous avez bad run. Mais vous, en tant qu'individu, vous ne pouvez pas vous dire là, les 3 jours qui arrivent, c'est sûr, je vais pas de run. D'accord ? Ça n'existe pas. Ce qui existe, effectivement, c'est de constater après coup que telle période, à peu près, ça, c'était une période plus dure. Et qu'à partir de telle période, là, c'était plus facile. Voire là, ça a run good. Mais vous, vous ne pouvez pas savoir l'avenir. Et de toute façon, encore une fois, il n'y a pas de cycle. Alors, je sais que c'est basique ce que je dis, mais pourtant, on fait tout le temps l'inverse. La preuve, c'est qu'on lance une session en se disant « Ouais, allez, c'est reparti, le bad run, il commence dès qu'on perd un coin flip. » Alors, si vous êtes en plein run good et que vous perdez un coin flip, vous vous en foutez, c'est juste un coin flip perdu. Mais comme vous êtes en bad run depuis des semaines, voire peut-être des mois, quand vous lancez votre session le soir et qu'elle vient à peine de commencer et que vous perdez un coin flip, vous vous dites « Ah ben voilà, le bad run continue. » Et vous vous mettez dans un mindset comme si ça allait être comme ça toute la session. Et ça aggrave énormément ce phénomène de tilt et de désespoir, etc. Donc, n'ayez pas ce mindset, ok ? Chaque main est indépendante, chaque fois, ça repart à zéro, ok ? Il n'y a pas de... Vous n'êtes pas maudit sur une période donnée où vous ne pouvez rien faire. Donc, il va falloir réduire l'intensité émotionnelle. Et pour réduire cette intensité émotionnelle, la première chose à faire, c'est de tout couper et de faire un break et ramener du positif. Pourquoi il faut faire ça ? La réponse est extrêmement simple. C'est que vous êtes un être humain, nous ne sommes pas des machines, et lorsque vous êtes dans un très gros bad run, ce qui se passe, c'est qu'il y a une accumulation d'émotions négatives qui commence à être si importante qu'elle devient critique, et qu'à chaque fois que vous refaites une session, vous accumulez ces émotions encore et encore jusqu'à péter un câble. Donc la clé, c'est de faire un break, l'idéal, c'est de faire un break juste avant de vraiment péter un câble. Ou de commencer à vraiment très mal jouer au poker. Ça arrive rarement parce que c'est très difficile de bien se connaître, mais si à un moment, en tout cas, vous sentez que là, vous pétez un câble, c'est le signe qu'émotionnellement, vous n'êtes absolument pas apte à continuer. Ça veut dire qu'il y a trop d'émotions négatives accumulées, qu'il faut faire un break, parce que si vous ne faites pas de break, vous allez continuer de péter des câbles, peut-être de plus en plus, jusqu'à faire vraiment n'importe quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le life tilt. C'est-à-dire que vous commencez à tilter partout au poker dans votre vie. Vous prenez des décisions complètement irrationnelles. Ça peut être d'aller jouer bourré, de faire n'importe quoi au casino, d'aller jouer 3 limites plus hautes, etc., etc. Donc, il faut couper la source de ce qui vous fait souffrir et qui risque de vous faire souffrir encore plus. Alors, bien évidemment, moi, ce que je vous conseille en premier lieu, c'est de sortir de chez vous. Plein air, calme, nature, tout ça, ça recentre et ça apaise votre cerveau. Ok, on ferme la porte, on se barre de tout cet environnement qu'on a tendance à voir comme toxique, on sort de chez soi parce qu'on a tendance émotionnellement à vraiment se sentir enfermé émotionnellement. Juste changer de lieu, aller changer les idées, ça permet au moins de plus être devant l'ordinateur ou devant le smartphone, j'allais dire, et de plus avoir ce risque de relancer une session en tilt et de pas rester enfermé là-dedans. Je vous conseille également, et ça c'est peut-être le plus important, c'est de faire directement, mais vraiment dans la journée, dans l'heure qui suit, où vous avez pété un câble, une session de sport très intense. Et je vous conseille également d'en faire les jours qui suivent, les semaines qui suivent. Particulièrement intense, pas juste un peu de cardio. Vous vous mettez minable niveau sport. Enfin, je ne vous demande pas non plus de prendre des risques, évidemment, et de vous blesser. Mais vraiment, aller au bout de vos limites autant que possible, ça va vous vider totalement. Et ça vous permet d'extérioriser. Et surtout, ça vous permet de sécréter des hormones ultra EV+, j'ai noté, c'est-à-dire des hormones qui vont sur le long terme et surtout là, plutôt sur le court terme, vous faire énormément de bien pour la régulation émotionnelle. Quand vous faites une session de sport extrêmement intense, c'est tellement intense que votre corps va sécréter énormément d'hormones pour, entre guillemets, vous récompenser. C'est un système de récompense de votre corps, en partie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous vous sentez vraiment ultra apaisé, voire euphorique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent accro au sport d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle la bigorexie. C'est assez intéressant. Mais donc faites une session de sport très intense. Moi, ça m'arrive encore des fois, je ne suis pas bien et je m'enchaîne sport intense, douche froide, méditation. Et en général, après, j'écris. On va parler de l'écriture. Ça ne m'est jamais arrivé d'être mal, de faire sport intense, douche froide, méditation, écriture. On va dire que le tout, ça me prend une heure et demie et de me sentir très mal derrière. Donc, faites-le, passez à l'action. Session de détente et de plaisir après tout ça, c'est très bien aussi, bien évidemment, ça vous ramène du positif. Donc tout ce qui est spa, massage, aller bouquiner au soleil, tout ce qui vous détend, vous apporte du plaisir, hein, un plaisir sain et agréable, faire une randonnée en nature. Alors là, je l'ai un peu mis dans le premier point aussi, mais c'est ultra important, encore une fois, ça vous permet de couper, d'apaiser votre cerveau, de se ressourcer, de ramener des émotions positives. C'est comme quand vous êtes blessé, hein. Un bad run émotionnellement, ça blesse vraiment votre régulation émotionnelle. Vous avez besoin de cicatriser, de guérir, de laisser au repos. Comme une blessure au pied, on plâtre et on touche plus, on laisse reposer. On a besoin de ça dans les moments les plus intenses du bad run. Écriture, donc comme je l'ai dit, c'est ultra, ultra utile. Vous prenez un document et vous couchez par écrit vos pensées et vos ressentis. Décrivez ce que vous vivez. Ne vous souciez pas de l'orthographe, de la syntaxe. Coucher par écrit ses pensées et ses émotions, c'est parfaitement prouvé scientifiquement. Ça permet d'évacuer. Donc encore une fois, si vous cumulez ça va vous faire énormément de bien. Sport intense, détente plaisir, méditation éventuellement, là je ne l'ai pas mis parce que je sais que peu de gens auront la motivation de le faire, mais on va dire détente, méditation et écriture, ça vous fera un bien fou. Et essayez de le faire les jours suivants aussi et de couper du poker. Voir des amis, bien évidemment, rien de mieux pour changer les idées que de passer de bons moments avec des gens qu'on aime. Donc vous voyez, c'est très proche de ce que je vous ai dit sur le cadre de régulation émotionnelle, mais là ça va être un programme intense, on va dire. Ça va pas bien du tout, vous venez de péter un câble ou ça fait plusieurs jours que vous êtes vraiment pas bien, faut mettre un gros coup de collier, faut vraiment, entre guillemets, un médicament puissant. Sauf qu'il n'y a pas de médicament hein, pour contrer le bad run, donc vous allez devoir vous-même vous prendre en main, agir et essayer de cumuler une journée comme ça où vous sortez de chez vous, vous faites du sport intense, après vous vous détendez, vous écrivez, vous écoutez une musique qui vous plaît, vous allez voir des amis, juste ça en une journée, une après-midi. Ça peut vraiment impacter très très violemment votre mindset, positivement bien évidemment. Donc faites ça. Bien évidemment, du coup, le break aura une durée variable selon votre personnalité. Il y a des gens qui se rétablissent plus ou moins facilement, qui sont plus ou moins résilients. Selon évidemment aussi l'intensité du bad run, votre situation de vie. C'est sûr que si vous traversez un bad run et qu'en ce moment ça va pas mal, ça va pas, pardon, si vous traversez un bad run et que ça va pas bien du tout dans votre couple, que ça va pas bien avec vos enfants, qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui est malade, qu'au boulot c'est compliqué, ça va être difficile, on est d'accord. Donc selon tous ces paramètres-là, il va falloir être intelligent et jouer là-dessus. Mais faites ça bien, ne restez surtout pas chez vous devant des écrans à glander. Ça, c'est le pire, ça ne va rien résoudre, vous n'allez pas vous reposer et vous ressourcer, vous allez penser au poker tout le temps et ça va accroître votre anxiété, votre perte de confiance, de motivation, etc. etc. Ok, donc on a vu ce qu'on doit faire sur le plan un petit peu émotionnel et concret pour réguler ses émotions justement. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire de plus direct quand on est en plein bad run et qu'on se prépare à retourner sur les tables. Okay? Il ne faut pas faire comme avant. Lorsque vous venez de traverser un très gros bad run, que vous avez été très mal, vous avez pété un câble ou pété des câbles, il faut donc prendre un break qui va durer plus ou moins longtemps, vous l'avez compris. Et quand vous retournez aux tables, il faut partir sur quelque chose d'autre. Il faut qu'on ait l'impression qu'il y a un avant-après. Et en fait, il ne faut pas que ça soit une impression, il faut qu'il y ait concrètement un avant-après. Donc, deuxième point, préparez son retour aux tables, faites un bilan sur votre situation et vos objectifs pour remettre de l'ordre dans votre poker, dans tout ça, et y voir plus clair. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre en termes de bankroll, de résultats, de volume et à quelles échéances? Où est-ce que vous voulez être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Vous pouvez revoir plein de choses avec qui vous travaillez votre jeu. Est-ce que c'est vraiment le format qui vous correspond? Est-ce que vous devez jouer à des limites plus hautes, plus basses, etc. Prévoyez-vous, et ça c'est peut-être le point le plus important, après un bad run, quand vous retournez sur les tables, essayez de faire en sorte que ça ne reparte pas comme avant. Donc réduisez la probabilité que la variance vous frappe au maximum. On l'a vu en début de vidéo, vous l'avez compris normalement. En tournoi, jouez des plus petits fields, c'est-à-dire des tournois où il y a moins de joueurs. Essayez de jouer des tournois où il y a 250 joueurs ou moins. Allez, maximum 300 joueurs ou moins. Pourquoi? Parce que vous allez renouer avec les tables finales, les victoires, même le simple fait d'être ITM, d'arriver dans l'argent. N'oubliez pas que plus vous jouez des gros tournois où il y a plein de monde, moins vous aurez de chances d'aller loin et plus du coup vous aurez de probabilité de vous en prendre plein la figure, que la variance vous impacte. Donc essayez de faire en sorte que vos sessions soient les moins inclines à la variance. En cash game ou en spin, si vous jouez en spin expresso ou en cash game, quittez la session dès que vous sentez que vos émotions deviennent trop intenses. Ça n'est pas être faible ou fragile de faire ça. Vous venez de traverser un très gros bad run. Vous avez bien fait les choses pendant votre break. Là, vous revenez aux tables. Il faut faire le maximum pour pas repartir et réactiver la dynamique négative que vous venez de vivre. Vous êtes fragile. Il faut vous y remettre doucement. Un bad run, quelque part, c'est vraiment un mini traumatisme. Et ça débouche très concrètement sur des burn-out plus ou moins importants. J'ai vu plein de poker en burn-out à cause des bad runs. Donc faites très attention. Jouez une ou deux limites plus basses où votre edge, c'est-à-dire votre avantage sur les joueurs, sera bien plus important. Puisque, vous le savez, plus on a d'avantages sur les joueurs qu'on joue, moins on a de chances de se prendre une grosse variance dans la figure et d'avoir de très mauvais résultats. Donc si vous jouez des plus petits fields et que vous jouez à des limites plus basses où votre niveau est meilleur, il y aura moins de variance. Jouez éventuellement moins de tables aussi et moins longtemps pour maximiser votre focus et donc votre niveau de jeu. Après, si vous vous sentez très bien, bien sûr, gardez le même nombre de tables, mais le but, c'est que chaque session que vous jouez, elle ait le moins de variance possible et que vous jouiez votre meilleur poker possible. Ok ? Ne jouez pas du coup si vous êtes fatigué, stressé, anxieux, en tilt ou quoi. D'accord ? Puisque le but, c'est de jouer votre meilleur poker. Lorsque vous ne vous sentez pas en condition, là, il faut faire particulièrement attention. Prenez également un coach du coup qui pourra vous encourager, vous aider à progresser et faire le tri entre le bad run et le bad play. Avoir un coach derrière qui vous soutient, qui vous encourage, qui vous permet de vous dire « Non, non, mais là, t'inquiète, c'est pas ta faute si tu perds, t'as juste bad run, continue, t'es sur la bonne voie », ça aide énormément. Inversement, si à un moment, vous commencez à mal jouer, il va vous dire « Non, alors là, certes, t'as pas eu trop de chance aujourd'hui, mais il y a une grosse partie de tes pertes qui sont dues au fait que t'as mal joué. Il faut corriger ça, il va vous aider à le corriger. » Ça va vous permettre de ne pas être enfermé dans un déni vous ne regardez pas vos faiblesses et vos erreurs en face et vous vous enfoncez. Mettez également en place un échauffement et un cooldown pour encadrer vos sessions, mieux jouer, puisqu'encore une fois, le but, c'est de réduire la variance potentielle et de jouer votre meilleur poker, et de vérifier que vous ne dérapez pas pour retomber dans une spirale émotionnelle négative, d'accord ? C'est très important de penser à ça. Il y a des vidéos sur Kill Tilt gratuites sur l'échauffement et le cooldown qui datent un peu, si je ne dis pas de bêtises. Et si vous avez la masterclass progresser au poker, re-regardez ces chapitres-là, d'accord ? Sur l'échauffement et le cooldown, bien évidemment, ça maximise l'échauffement, votre probabilité de bien jouer. Et le cooldown permet de faire retomber vos émotions et de faire le point pour refermer la porte sur votre session poker et repartir plus sereinement dans votre vie. C'est capital. C'est pas pour rien que les sportifs de haut niveau font également ces choses-là. On commence à arriver vers la fin de cette vidéo. Dernier point, changez votre objectif de session. Le but, c'est pas de gagner ou de perdre quand vous lancez une session de poker. Votre seul et unique but, c'est de jouer votre meilleur poker instant après instant et de réguler vos émotions et votre concentration autant que possible, même si vous prenez des gros bad beats. Et j'ai mis entre parenthèses méditation, parce que finalement, une session de poker, c'est quasiment comme... On peut l'apprendre, on peut la voir comme une session de méditation. Puisque la méditation, c'est apprendre à accepter ce qui vient et rester calme et concentré. Et au poker, une grosse partie de votre travail, en quelque sorte, ça va être d'accepter les cartes qui tombent, même si ça ne vous fait pas plaisir, et de continuer à être concentré et attentif à ce qui se passe. Citation pour finir la vidéo, qui est très connue, mais elle est parfaite pour le sujet qui nous occupe. C'est une citation d'un vieux stoïcien, je crois que c'est Marc Aurèle. Ça dit « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse de distinguer entre les deux. » Détaillons un tout petit peu. La sérénité d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer, c'est globalement, par exemple, encaisser les bad beats et rester serein, puisqu'on n'y peut rien et que finalement ça fait partie du jeu. Le courage de changer ce qu'on peut changer, c'est-à-dire changer notre capacité à rester calme et donc à pas tilter, changer par exemple en faisant un échauffement, un cooldown, en prenant des bons breaks, etc. Et la sagesse de distinguer entre les deux. Parce que parfois, c'est pas facile de savoir ce qu'on peut changer ou pas. On peut pas tout changer non plus du jour au lendemain. Il faut pas s'attendre à changer au point de ressentir aucune émotion négative quand vous prenez un bad beat qui vous coûte très cher en table finale. Donc c'est tout un travail, tout Kill Tilt globalement vous invite à faire ça, c'est une des missions premières de Kill Tilt. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera, je vous invite vraiment à la réécouter dans un moment difficile et je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est grâce à votre soutien que Killteeth grandit de jour en jour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et surtout, très important, cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger notre formation gratuite Les Bases du Poker. Vous recevrez un PDF et de nombreuses vidéos pour vous aider à progresser aussi rapidement que possible. Allez, ciao tout le monde!